Alors, que faut-il faire pour favoriser le bien-être et la participation sociale, mais le bien-être avant tout de nos aînés? Cinq associations qui ont déjà travaillé ensemble par le passé, représentant, disent-elles, 700 000 personnes aînées, ont uni leurs forces pour interpeller les partis politiques en vue des élections du 1er octobre prochain. Ensemble, elles font pour la première fois entendre leur voix via une plateforme commune dans laquelle 16 revendications sont énumérées pour un Québec, je cite, digne de ses aînés. Alors j'ai le grand plaisir de recevoir en studio Maurice Dupont, président du réseau FADOC. Bonjour, monsieur Dupont.
Bonjour, madame.
Donald Tremblay, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Bonjour, monsieur Tremblay.
Bonjour, madame Janson.
Et au bout du fil, pardon, depuis Québec, Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour, madame Gagnon.
Bonjour, madame.
Alors, cette plateforme, elle est assez claire et succincte. Il y a 16 recommandations, quelques lignes par recommandation, touchant principalement la santé des aînés. Dans quel contexte s'inscrit-elle, cette plateforme? Je vais m'adresser à Monsieur Dupont pour commencer.
Alors, je pense qu'il y a deux aspects dans cette préparation-là. D'abord, je dirais qu'il y a des expériences antérieures qui ont porté fruit, qui ont été agréables pour les organisations. Alors, la première, c'était les frais accessoires il y a un peu plus de 2 ans. La deuxième, c'était une mesure qui était pour les personnes âgées de 65 ans et plus, un crédit d'impôt. On voulait reculer et c'était aussi, on a atteint notre but. Et plus récemment, ce printemps, ce fut aussi autour des optométristes, dossier qui est encore en traitement, mais où on a pris une ventilation pour mieux traiter peut-être les choses.
Oui, donc des victoires déjà que
Alors,
vous aviez
d'autre
gagnées.
part, il y a tout le contexte de la campagne électorale qui s'en vient le 1er octobre prochain. Donc, en situation de pré-campagne, on a cru ensemble que c'était bien de s'inscrire là et surtout d'outiller les personnes de 50 ans et plus.
D'accord. Et donc, justement, on arrive effectivement à des élections provinciales en octobre. On peut quand même se demander ou faire un petit bilan des années libérales, Monsieur Tremblay, est-ce que vous voudriez faire ça pour nous?
Bien, en fait, les revendications que nous avons déposées la semaine dernière, je dois vous dire que ce n'est pas dans l'objectif de faire le bilan du gouvernement libéral actuel. Je dirais que ça se situe davantage dans ce qui est important qui soit mis en cause actuellement au Québec, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Alors, l'objectif n'était pas de faire le bilan politique du gouvernement récent. Mais je dirais que les 15, 20 dernières années, voire 25 dernières années, ça a été un peu toujours la même chose. Ce dont on s'aperçoit, c'est que toujours ou souvent, les choses sont traitées à la pièce. Alors, l'objectif, évidemment, des revendications qu'on a déposées cette semaine, ce sont des choses qui sont intéressantes, mais je dirais qu'on est dans le minimum requis pour améliorer le bien-être et les conditions de vie des aînés en général. Et ce qu'on souhaite davantage, c'est que les gens, les partis politiques qui aspirent à gouverner le Québec au cours des 4 prochaines années, les prennent en compte, les prennent en considération pour composer leurs programmes électoraux.
C'est ça, vous les avez tous rencontrés, ces partis politiques?
Nous les avons tous rencontrés dans la semaine qui a précédé notre sortie publique de la semaine dernière. Les 4 partis politiques ont été rencontrés et nous avons reçu un très bel accueil de chacun d'eux. Donc, il s'agira de voir maintenant de quelle manière ils comptent intégrer dans leurs plateformes respectives là, les revendications que nous avons faites.
Oui. Et la ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, elle a rappelé en exemple tout ce qui avait été fait sous son gouvernement, donc la loi 115 sur la maltraitance, l'ajout des travailleurs dans le réseau et le deuxième plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Est-ce que dans ce plan d'action, vous ciblez des groupes aînés en particulier? Je m'adresserai à Madame Gagnon.
Regardez, on cible l'ensemble des aînés. Sauf que ce qu'on a voulu faire, c'est des mesures précises pour des aînés plus vulnérables. Parce qu'on a pensé qu'une société juste et équitable, il fallait qu'il y ait un minimum pour l'ensemble des aînés. Alors, nos revendications, ben, on les a faites pour que ce minimum soit atteint par un ensemble le plus grand des aînés possible. Alors, c'est évident que ça cible davantage des aînés plus vulnérables, mais ça convient aux autres aussi.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes de ces revendications?
Oui, certainement. C'est des revendications qui sont très importantes parce que, vous savez, les soins et services à domicile, c'est un enjeu majeur. Les Québécois et Québécoises ont bien dit qu'ils voulaient rester à domicile. Mais pour rester à domicile, il faut des conditions. Il faut un ensemble de conditions. Alors, soins et services à domicile, c'est important. On a parlé aussi des CHSLD. CHSLD, c'est un milieu de vie pour les aînés. Il faut que ça demeure un milieu de vie. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait une qualité de service pour les aînés jusqu'à leur fin de vie. Les proches aidants. Vous savez, madame, les proches aidants, on en est tous plus ou moins. Et puis, de plus en plus, la société vieillit. Et c'est important d'accorder de l'importance aux proches aidants parce que c'est ça qui fait le ciment de la société. C'est ça qui fait qu'une société peut mieux vivre. La prévention, c'est important. On vieillit de plus en plus, mais il faut aussi prévenir. Il faut prévenir, conserver notre santé, vieillir de plus en plus en santé. Revenu à la retraite, c'est important aussi. Le seuil du faible revenu. Parce que si tu n'as vraiment pas le seuil minimal, c'est difficile de vivre aussi. Puis ça, là, la santé intérieure, tu ne peux pas t'impliquer. Tu peux plus. C'est difficile. Puis l'habitation. C'est important, l'habitation aussi.
D'accord. Et donc là, vous dites que c'est des revendications minimales. On parle, par exemple, aussi de gratuité dans les stationnements des CHSLD. Est-ce que ça veut dire que vous vous attendez à ce que le prochain gouvernement mette en place tout ça rapidement?
Oui, madame, on s'attend à ça. On leur suggère fortement. On vous l'a dit, on est allé faire le tour des partis politiques. On leur a adressé nos revendications. On a travaillé ensemble pour que ces revendications-là soient des revendications communes. Alors, ils sont accessibles, ils sont faisables. Okay. Quand même assez facilement.
Oui, c'est ça. Monsieur Dupont, d'ailleurs, rappelez-nous comment vous avez travaillé ensemble en 5 organismes comme ça, représentant 700 000 personnes. C'est pas banal.
Pour faire des liens avec l'introduction de tantôt, je veux dire, on stabilité quand même à quelques expériences positives entre nous. C'est évident que c'est un travail magistral parce que nous avons chacune de nos entités, nous avons des structures aussi uniques dans chacune de nos organisations respectives. Alors, je pense que de ta part, il y a eu une mise en commun de chacun de nos voix, parce que chaque organisme, chaque président, chaque membre, on est informé régulièrement par des membres, mais par des non-membres aussi, de ce qui se passe dans la société, des réels besoins. Alors, on a fait une cueillette autour de nous, à l'individuel. Ensuite, ça a été mis en commun, et on s'est entendu sur ce qui nous parlait, et surtout ce qui parlait aux gens de 50 ans et plus, notamment les gens défavorisés, mais aussi pour leur qualité de vie. Ça, c'est primordial.
Comment est-ce que les aînés se sentent en 2018, Monsieur Tremblay?
Bien, en fait, ce serait difficile de dire comment les aînés en général se sentent. Ça dépend toujours de leurs conditions individuelles. Évidemment qu'une personne de 65-70 ans qui est en pleine forme dans le Québec actuel, elle peut relativement bien se sentir parce qu'elle a accès à peu près à tout. Mais à partir du moment où on devient un peu plus vulnérable, on devient avec des limitations, ça commence à être plus difficile. L'autre élément concernant le sentiment des aînés, je dirais que c'est la participation sociale des aînés. C'est que de plus en plus dans le discours public, on a tendance à voir les aînés et à faire percevoir les aînés comme une lourdeur pour le système. Souvent, on lit vieillissement de la population et, je dirais, augmentation des difficultés, frais, puis des coûts, etc., etc. Mais on oublie de parler de la participation sociale des aînés. D'abord, la reconnaissance de leurs paroles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis, ils ont des choses à dire, les aînés.
Vous trouvez qu'on ne les entend pas assez?
Bien, on ne les entend pas beaucoup. Puis, la place qu'elle porte, cette parole-là, elle n'est pas très grande. L'autre élément qui est, je dirais, un peu mis de côté, c'est la contribution des aînés également. Ouais. Souvent, on parle des aînés en termes de, encore une fois, de personnes en difficulté, mais c'est des personnes très aidantes. On parlait tout à l'heure des proches aidants. Je vous dirais que la génération des 65, 70, 75 actuellement, là, ce sont des proches aidants à la fois pour leurs parents vieillissants, qui sont des aînés également, mais à la fois pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et à la blague, on disait si la force bénévole ou la force aidante des aînés était retirée complètement du tissu social québécois, probablement qu'on aurait des petits problèmes, en tout cas des petits problèmes à la garderie sûrement.
À la garderie, à vue des voix également, c'est évident. Donc après, on va s'accorder.
Est-ce que je pourrais parler un petit peu là-dessus?
Oui, allez-y, Madame Gagnon.
Écoutez aussi, je vais faire un peu de pouce sur ce que M. Tremblay a dit. Aussi, ce que je trouve, c'est que souvent, dans les médias, les influenceurs, tout le monde, ils parlent des aînés, mais comme étant tout pareil. On n'est pas un groupe monolithique. On est des humains qui vieillissent. Et puis, on n'est pas tout pareil. On a des groupes d'âge. Il y a des écarts dans les groupes d'âge. Il y a des écarts dus aussi à nos conditions sociales, à tout ça. Fait que des fois, je trouve que c'est difficile de se voir représenté comme un groupe monolithique. Puis dans les médias, on voit souvent des crises qui arrivent en CHSLD, en RPA, dans différentes choses. Mais on voit moins l'implication sociale des aînés, les réussites sociales. On voit moins les contributions majeures des aînés dans notre société. Puis ça, c'est vraiment dommage pour tous les groupes de population.
Oui, tout à fait. Alors, on pourrait s'accorder une petite pause musicale et puis on va revenir sur comment montrer, démontrer cet impact social et comment le favoriser. Nous revenons dans quelques instants.
Question de la semaine, quelles devraient être les priorités du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des aînés? Comment les aînés peuvent-ils continuer d'être une force d'avenir?
Alors, chers auditeurs, répondez à la question sur canalm.vusezvoix.com. Je le rappelle, nous sommes en table ronde avec Maurice Dupont, président du réseau FADOC, Donald Tremblay, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, et Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Je voulais revenir avec vous sur les prévisions démographiques de la province, puisque je lisais dans un éditorial il n'y a pas très longtemps que le poids électoral serait égal entre les générations en 2018.
Bien, en 2021, nous serons 20 % de la population, alors qu'en 2031, ce sera le quart de la population qui sera des 65 ans et plus. Et une personne de 65 ans aujourd'hui, il y en a la moitié de ces personnes-là qui vivront jusqu'à 85 ans. Alors, le poids démographique augmente, combiné avec une faible natalité, ça fait en sorte que les 65 ans et plus, on représente un poids beaucoup plus important sur le plan démographique au Québec.
Oui, et puis là, vous défendez les aînés d'aujourd'hui, mais votre plan est plus visionnaire que ça.
Vous avez raison, on défend les aînés d'aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement ceux d'aujourd'hui, peut-être, qui en profiteront le plus, mais c'est ceux qui vont nous suivre. Et il y a une chose de sûre dans la vie, à moins qu'on décède très tôt, on devient tous un jour ou l'autre des aînés de 65 ans et plus. Alors, on travaille pour nous, mais on travaille pour ceux qui vont nous suivre également. Et c'est là qu'on peut dire que notre approche est intergénérationnelle.
J'aimerais
oui,
rajouter
Madame
quelque chose. Mon Dieu, on fait du pouce ensemble, c'est intéressant. Pour l'ensemble d'une société là, qui est équitable, qui est bienveillante, qui est humaine, c'est toutes les générations qui doivent travailler ensemble. Et on doit se respecter, on doit se donner des chances. Puis au bout à l'autre de la pyramide des âges, quand tu nais, tu es plus vulnérable parce que t'es tout petit, tout ça, puis t'as besoin d'aide, t'as besoin tes parents, t'as besoin de toutes sortes de choses. Puis quand tu approches, plus tu t'éloignes de ça, puis dans le spectre, puis plus tu vieillis, ben t'as les mêmes besoins. Et puis ça, moi, je pense que c'est important aussi. On transporte la voix des aînés, mais c'est important aussi de la transporter partout, dans tous les niveaux de la société, pour qu'on comprenne qu'on est ensemble, qu'on est tous des maillons d'une même société, puis que d'aider les aînés, de les respecter, ça veut dire que respect pour toute la société.
Oui, j'entends bien. Donc, 16 revendications quand même pratico-pratiques, mais une vision assez large, un refondement finalement de la place des aînés dans la société ou du traitement de nos pères. Je m'adresserai à M. Dupont. Est-ce qu'il faut revoir les structures actuelles pour une politique des aînés au Québec?
Ben, je pense que lorsqu'on mentionnait dans notre conférence de presse qu'on traite souvent les choses de façon isolée, cas par cas, et que ça fait un cumul de notre point de vue. Nous cinq, je pense qu'on faudrait regarder à nouveau, regarder autrement. Est-ce qu'il y a lieu d'intervenir autrement? On parlait tantôt précédemment, est-ce que les aînés sont suffisamment entendus? Est-ce qu'ils ont de la place pour être écoutés? Alors, à partir de ce qu'on a dit dans notre discours, que l'on tient et qu'on répète, je pense que ce serait lieu de voir dans une prochaine structure gouvernementale, est-ce qu'il y a lieu de revoir ces structures-là actuellement? Est-ce qu'il y a lieu de consulter davantage, de consulter autrement, de rejoindre davantage les gens qui ont vraiment besoin pour être vraiment à l'écoute?
Comment vous voyez les choses, M. Tremblay?
Bien, en fait, j'espère que les gens vont comprendre le message. J'espère que les décideurs du futur vont comprendre le message et vont s'attarder à travailler de façon beaucoup plus globale que présentement. Je pense que M. Dupont l'a bien dit, là. Actuellement, on voit du traitement à la pièce. On voit des choses qui sont, je dirais, prises en considération à partir du moment où il y a une crise. On l'a vu, là, la crise du deuxième bain, par exemple. Rappelez-vous, il y a quelques, je dirais, années où on parlait des bains au noir, où on blâmait les gens qui s'achetaient des bains au noir, et en plus, on blâmait ceux qui les dispensaient. Aujourd'hui, on est dans une politique de deuxième bain, et on a vu des reportages récemment qui parlent du bienfait de ce que ça peut avoir. Mais on a vu également qu'au-delà de la décision politique d'injecter plus d'argent pour le deuxième bain, on sait très bien, à voir les reportages de Radio-Canada récemment, que le deuxième bain, il n'est pas au rendez-vous encore. Alors, c'est pas suffisant d'avoir une volonté politique, il faut que ça se traduise concrètement sur le terrain. Et ça, c'est pas gagné encore. On parle de pénurie de personnel, notamment dans la question des préposés aux bénéficiaires. On a vu aussi les décisions gouvernementales par rapport à une formation abrégée, raccourcie, à la limite de l'acceptable. Alors, c'est tous des éléments qui font en sorte que ça nous inquiète. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre ça de façon beaucoup plus large qu'actuellement on le fait.
Oui, et pour revenir aussi sur le poids qu'occupent tous ces groupes d'aînés dans la société, Madame Gagnon, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que les aînés constituent une force d'avenir. Et moi, je me poserai la question, en quoi ils constituent cette force d'avenir pour vous?
Ben écoutez, madame, ça fait depuis 2015 que j'en parle ouvertement, dans mon milieu, dans mon regroupement, et même, je vous dirais que ciblé dans une région, on a fait faire une étude sur qu'est-ce que les aînés pensaient d'eux-mêmes, puis quelle était leur place dans la société. Alors, c'est les aînés eux-mêmes qui ont dit, nous, puis ça paraît drôle au départ, mais ça ne l'est pas, on est une force d'avenir, parce que les aînés ont été l'artisan des grands changements sociaux, des grandes réussites sociales. Ils portent la mémoire des générations. Leur expérience est unique. Les liens entre les générations donnent des racines et des ailes. C'est important. C'est important aussi de revisiter le pacte social avec tout l'ensemble des générations. Alors oui, c'est une force d'avenir, les aînés, parce qu'on est dans le continuum du temps et puis on représente beaucoup pour la société puis pour tout le monde. Mais dans l'étude qu'on a faite, les aînés disaient aussi qu'ils voulaient avoir davantage de place, de tribune publique, de voix. La plupart des gens nous ont dit, on a moins de voix, on est en nombre, on est important, mais on n'a pas beaucoup de voix. Et puis les aînés étaient fortement intéressés par les enjeux liés au vieillissement de la population. Les aînés aussi voulaient s'occuper d'environnement, d'aménagement du territoire. Pour eux autres, c'est important de suivre l'actualité. C'est important qu'est-ce qui se passe dans les régions aussi, parce que dans des régions, on enlève des services, puis on se demande où est-ce qu'on va vivre après. Les aînés nous l'ont dit et on considère que c'est important et que c'est véritablement une force d'avenir, les aînés. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur du vieillissement de la population, pas du tout. D'autres pays ont traversé ça. Il faut s'adapter, changer les paradigmes, puis permettre à toutes les générations de se pénétrer et de travailler ensemble.
Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, est-ce que ça prend une politique du vieillissement, M. Dupont? Comment on arrime tout ça?
Je pense que ce sera au prochain gouvernement, à partir des interventions que les 5 organisations ont faites auprès d'eux, des députés possiblement porteurs du dossier éventuellement. Ça sera fabriqué, à concevoir, ça sera étudié aussi. Et pour faire du pouce avec ce que disait Mme Gagnon aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de la phase aînée, puis on parle un peu d'intergénérationnel, comme M. Tremblay le mentionnait. Mais moi, je dirais, il faut peut-être semer chez les jeunes aussi le goût d'un vieillissement mieux, d'un vieillissement correct, d'un vieillissement actif. Alors, pour ça, je pense qu'il faut mettre des mesures en place. Et si des états généraux semblent la solution,
pourquoi pas,
porteuse de fruits, bien, les gens iront, allons-y, et nous, on s'en réjouira.
Vous demandez ça depuis quelque temps, n'est-ce pas?
Bien, nous, au niveau du réseau, si je m'isole de mes 4 autres collègues, je veux dire, c'est qu'à chacune de nos commissions parlementaires, nous soulignons. On a besoin d'une politique du vieillissement.
D'accord.
Alors, vous voyez, de par l'énonciation qu'on formule, ça peut être différents types, mais ce n'est pas à nous, à la fin, voir. Mais comme disait M. Tremblay, je pense que nos gens qui vont décider ont besoin de nous écouter. Puis, je veux dire, pour toujours la qualité de vie adéquate pour nos gens de 50 ans et plus, mais avec cette vision intergénérationnelle qui est intimement associée. Et je pense que si on a l'image, si on a une belle vision de ce que c'est un CHSLD, un vieillissement quand même relativement correct et sain, regarde, on aura le goût d'aller plus loin et d'être aussi actif que les prédécesseurs.
Tout à fait. Puis vous êtes réunis tous les 5, mais vous pourriez aussi vous réunir avec d'autres associations, d'autres générations, et puis aussi, pourquoi pas, avec le milieu du handicap qui a toujours besoin de plus d'accessibilité et d'inclusion. Alors encore, merci beaucoup pour cette participation, vos présences à cette table ronde. Je le rappelle, Maurice Dupont, président du réseau FADOC, Donald Tremblay, président de l'Association québécoise des retraités du secteur public-parapublic, et Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On va se reparler prochainement, c'est sûr. Merci.
Merci, madame.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.